7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi et bien sûr, on parle de la hausse des frais d'inscription dans les universités en France pour les étudiants non européens, composés à 46% d'Africains. C'est une réforme totalement inédite dans l'histoire des universités françaises publiques. Un prix multiplié par 15 pour atteindre en année de master 3 770 euros l'année, 1000 euros de moins en licence si on est un étudiant non européen, non issu de la communauté européenne, de l'Union européenne. Certes, c'est seulement près d'un tiers du coût réel d'une année d'études. Le reste étant payé par le contribuable français. Mais tout de même, ça soulève beaucoup de questions sur la stratégie du gouvernement qui souhaite désormais attirer les jeunes des pays émergents, la Chine ou l'Inde, et sur les conséquences sur les étudiants africains. Car l'augmentation des bourses compensera probablement pas cette flambée des prix. On va en parler avec Thierry Valentin, directeur général adjoint de Campus France. Bonjour.
Bonjour.
François Germinet avec nous également, président de l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également président de la commission formation et insertion professionnelle à la conférence des présidents d'université. C'est le syndicat du patronat des universités, si on peut dire. Thomas Martin dit Michelet, alors j'espère qu'il est en train d'arriver et qu'il est coincé dans les transports seulement, il va nous rejoindre et qui est vice-président de la FAGE, le premier syndicat étudiant, des syndicats qui d'ailleurs appellent à manifester samedi dans plusieurs villes de France, le même jour que les Gilets jaunes. Augusta Lunardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes une ancienne étudiante étrangère en France et diplômée d'ailleurs. Vous êtes une diplômée française de l'université de...
Du CFPJ, du Centre de formation des journalistes.
C'est ça, et vous êtes passée par les universités françaises
Paris
auparavant,
8.
Paris 8.
Exactement.
Vous avez publié une lettre ouverte au Premier ministre Édouard Philippe pour protester contre cette réforme. Les voisins, les voisines, si vous avez un projet d'études en France ou si vous êtes diplômé et rentré dans votre pays, on attend vos réactions, vos questions. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp qui est gratuit, sur lequel vous pouvez aussi laisser des messages. Je vous lis quelques messages que, bien sûr, vous pouvez commenter. Abdoulaziz, étudiant à Abidjan, master d'espagnol, nous dit « Eh bien moi, mes deux petits frères en première année d'agroalimentaire, en deuxième année de droit, veulent faire leur licence en France, mais avec la décision d'augmenter les frais d'inscription, c'est impossible pour nous. Quand on sait que la France signe des politiques éducatives bilatérales avec nos États, c'est incompréhensible. L'éducation est un droit, pas un privilège. » Voilà, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de messages de ce type. Alors, faut-il inclure l'enseignement supérieur dans l'éducation? C'est toute la question, hein. Quand on parle de droit à l'éducation, là, on parle bien d'enseignement supérieur, ce qui est un petit peu différent. Aladji, à 25 ans, il est étudiant en quatrième année de communication. Il est à Conakry. La hausse est énorme, nous dit Aladji. Le prix est trop élevé. Je me demande quel sera le nouveau slogan de Campus France. Avant, il disait: c'est le pays du monde développé où les frais d'études sont très bas, c'est-à-dire à l'image de la France, pays de l'égalité. Cette année, j'ai eu un refus de visa alors que j'avais fourni tout ce qu'il m'avait demandé. Depuis, je me suis tournée vers l'Allemagne, j'ai réussi le test, j'ai déposé tous les documents demandés et avec eux, j'obtiendrai mon visa d'études. Thierry Valentin, vous voulez réagir sur l'Allemagne? Est-ce que pour un étudiant africain, aujourd'hui, c'est plus favorable d'aller étudier en Allemagne? Alors, concernant les prix, puisque vous êtes dans le benchmarking et la comparaison des prix dans le monde entier.
Juste pour vous dire que justement du côté allemand, cette année, l'un des Landes allemands, le Baden-Württemberg, vient d'introduire aussi des frais différenciés pour les étudiants non communautaires. Oui. C'est pour l'instant une expérimentation qui est uniquement au niveau de ce Land-là, mais il y a quand
c'est
même
une tendance de fond.
C'est pas le cas dans le reste du pays.
Les étudiants étrangers non européens payent la même chose, et il faut bien le dire, les universités allemandes, pour une bonne partie, sont très très peu coûteuses, quelques centaines d'euros pour l'année. Caleb à Kisangani, dans le sud de la RDC, cette mesure vise à évincer les étudiants africains. Mais si toute l'Afrique s'intéresse maintenant aux pays anglophones, le français deviendra alors une langue morte, menace Caleb. Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous nous suivez également sur Twitter en direct. On prend dans quelques instants un premier auditeur.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
On accueille un voisin, Palouma, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Palouma.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Palouma, vous êtes originaire du Tchad, vous êtes en Master 2 en ingénierie économique et financière à l'université de Yaoundé 2. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à la suite de votre stratégie d'études?
Justement, c'est ce que j'y pense. J'ai eu une inscription déjà au CRB, à Clermont-Ferrand. Là, je suis en train de faire des économies pour espérer réaliser mon rêve.
Alors, là, vous avez donc déjà une préinscription donc, dans ce centre d'études et de recherche en développement international de l'université de Clermont-Auvergne, hein, c'est bien ça? Vous avez cette préinscription?
Oui.
Et la question que vous vous posez aujourd'hui, du coup?
Bon, j'espérais pouvoir réaliser mon rêve en 2 ans parce qu'en temps, je devrais faire des économies. Mais là, avec cette réforme, ça va être très, très compliqué. C'est le rêve qui est brisé.
C'est un rêve brisé, un rêve qui s'effondre parce que vous aviez prévu d'économiser pour subvenir à vos besoins en France. Et là, effectivement, avec l'augmentation des frais, vous ne pourrez pas économiser suffisamment.
Justement.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester au Cameroun?
Bon, je vais essayer de voir si d'ici là, les économies me permettront. Mais là, ça va être compliqué parce que je l'espérais en 2 ans. Et donc, si ça ne passe pas, bon. Je serai obligé de le faire avec les moyens du bord.
Vous allez néanmoins candidater pour une bourse d'études?
Oui, c'est ce que j'ai déjà fait même par le passé. Et bon, pas encore de résultats positifs. Et donc, oui. Je ne baisserai pas les bras.
Oui.
Je vais le faire en espérant qu'un jour les portes pourront s'ouvrir.
Il faut tenter, les politiques de bourse vont être revues. On va en parler. En tout cas, restez bien à l'écoute pour notre émission. Merci de nous avoir appelé, Palouma, et de nous avoir parlé de ce rêve brisé. Souleymane est étudiant en 3e année de gestion à Bamako. Bonjour Souleymane. Soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel. Bonjour cette meilleure de voix.
On vous écoute.
En fait, vous savez, la déception, elle est grande là où je vous parle. Mmh. C'est-à-dire que quand vous préparez quelque chose pendant 3 ans,
oui.
C'est-à-dire dès l'obtention de mon bac, je me suis mis à me renseigner d'éventuelles informations sur l'opportunité d'études en France. Mmh. Et voilà, j'ai tout ce qui est dossier à fournir et j'ai tout préparé. Maintenant, à la dernière minute, quand vous attendez la rentrée pour postuler, vraiment, et que qu'on vous informe que cette décision-là a été prise, c'est décevant.
Dans quel état d'esprit vous êtes alors aujourd'hui? Qu'allez-vous faire? Parce que vous avez fait le compte de vos économies, des économies de votre famille, et cela vous semble impossible?
Ah ouais, c'est ça. C'est totalement...
Alors qu'est-ce que vous allez faire, Souleymane?
Oui, bon, je me suis... Et avant même, j'avais des informations comme quoi il y a des opportunités d'études en Inde. Mmh. Donc là, mais jusque-là, j'avais mis le cap vraiment sur la France. Je ne m'étais pas intéressé à d'autres pays. Mmh. Mais là, j'ai mis le cap sur l'Inde. Mmh. Et voilà, et c'est le pays jusque-là qui est plus apte à m'accueillir. Mmh.
Merci beaucoup Souleymane de nous avoir appelé. Merci à vous Palouma, vous continuez de nous téléphoner et de nous poser aussi des questions précises parce qu'on est à un moment du calendrier où effectivement les étudiants préparent leurs dossiers pour les déposer dans les agences Campus France pour des études en France. Thierry Valentin, l'augmentation est prévue pour la prochaine rentrée pour les nouveaux arrivants, vous nous le confirmez?
Alors, je vous confirme que l'augmentation sera déjà pour cette rentrée de 2019, qu'elle ne concernera pas les étudiants qui sont actuellement en France en cours de cycle d'études, qu'il les concernera éventuellement que s'ils changent de cycle d'études.
C'est ça, ceux qui sont en 3e année de licence,
voilà, l'année prochaine.
C'est là aussi un rêve qui se brise pour accéder au master à 3 770 €.
Alors, des mesures d'accompagnement ont été prévues, vous l'avez dit vous-même, avec une augmentation des bourses à la fois du gouvernement français avec 8 000 nouvelles bourses d'exonération qui vont être principalement fléchés et sur l'Afrique et sur les niveaux de doctorat, donc notamment pour l'intervention de Palouma, c'est important pour lui de déposer quand même un dossier de demande de bourse auprès de l'ambassade, et non pas auprès de Campus France, qui ne délivre pas les visas. Et puis, sur les nouvelles bourses aussi qui vont être mises en place, il y aura des nouvelles bourses pour les qui seront délivrées par les universités elles-mêmes, car elles pourront aussi utiliser ce nouveau levier. Le Premier ministre a chiffré ça à 6 000 nouvelles bourses. Eh bien, les universités pourront à la fois les allouer soit à des nouveaux étudiants arrivant l'année prochaine, soit à leurs propres étudiants déjà présents au moment de leur changement de cycle.
Les étudiants étrangers qui résident déjà en France, dont les parents payent des impôts en France, ne sont pas concernés par ces augmentations de frais d'inscription, même s'ils n'ont pas la nationalité française.
Il y a tout à fait toute une série d'exceptions qu'il faut rappeler très rapidement ici. Tout étudiant non communautaire, mais qui est résident familial ou fiscal dans un pays de l'Union européenne, ne sera pas soumis, ainsi que tous les étudiants en échange, tous les étudiants boursiers du gouvernement français, tous les étudiants en accord de double diplôme, tous les étudiants réfugiés, tous les étudiants qui sont bénéficiaires aussi d'une bourse européenne Erasmus+. Donc c'est un ensemble d'exonérations qui sera de fait et qui sera complètement appliqué dès la rentrée aussi.
Pourquoi cette augmentation aussi brutale? Je vous pose aussi la question à vous, François Germinet, parce que on sait que cette augmentation, elle a été voulue, attendue, même avec pas mal de même si c'était avec pas mal de discrétion, mais par les présidents d'université.
C'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans que moi j'en entends parler et ça revient régulièrement à chaque fois qu'il y a des réformes sur l'université. C'est vrai aussi que l'annonce peut paraître très soudaine, ça c'est tout à fait juste. Rappelons néanmoins que c'est un pack qui est plus large, qui est proposé par le gouvernement, avec l'amélioration de l'accueil des étudiants étrangers dans les universités en France. Nos moyens sont quand même assez limités aujourd'hui pour les accueillir dans de bonnes conditions.
Mais vous et vous puis, demandiez le quoi en tant que président d'université au gouvernement?
Et puis le développement de campus à l'international, de renforcer nos partenariats avec un certain nombre de pays, un certain nombre d'universités pour avoir plus de conventions et puis ne pas former uniquement chez nous en se disant ben voilà, moi j'ai mon master, je veux le garder pour moi et faire venir quelques étudiants, une poignée d'étudiants dans mon master et avoir bonne conscience, mais au contraire d'aller exporter ce master-là ou bien cette licence avec des partenaires dans d'autres pays et notamment en Afrique.
Vous faites allusion aussi à une possibilité pour les universités de faire un peu le ménage parmi les masters, qu'il y a des masters qui aujourd'hui sont remplis grâce à des étudiants étrangers qui ne sont pas forcément des masters jugés utiles par les universités et qui sont un peu bunkérisés par des chercheurs qui veulent maintenir ces masters parce que c'est aussi pour eux la possibilité de faire une carrière en tant que chercheur, en encadrant des doctorants par exemple.
Non, c'est le contraire, c'est de déployer ces masters au-delà de nos frontières en lien avec d'autres partenaires, notamment en Afrique, plutôt que de se dire le seul salut possible, c'est de venir physiquement dans ce master-là et ça ne peut concerner que quelques étudiants. Donc il y a un enjeu d'accès au savoir qui est donc, universel.
Ça s'appelle réformer un peu la liste très longue des masters et l'offre dans les universités d'une certaine manière.
Oui, ça veut dire permettre à plus d'étudiants, parce qu'au bout du compte, l'idée c'est de passer de 320 000 étudiants non communautaires à 500 000, et donc augmenter la proportion d'étudiants qui vont pouvoir venir dans nos masters avec un nombre de bourses suffisant. Donc c'est là-dessus que ça va se jouer, parce qu'on veut que tout étudiant talentueux qui a envie de venir en France et qui n'en a pas les moyens et qui pouvait venir aujourd'hui puisse continuer à le faire. On veut, voilà, donc l'enjeu va se poser ici.
Thomas Martin Di Michele, vous nous avez rejoint en cours de route, vous représentez le premier syndicat étudiant, la FAGE. Aujourd'hui, quel est le positionnement des syndicats? Comment vous jugez les conséquences de cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non européens?
Bonjour. Oui, en effet, la FAGE a très vivement réagi aux annonces du Premier ministre.
L'UNEF aussi, Solidarité étudiante, etc.
Exactement. Tous les syndicats étudiants sont globalement sur un front commun vis-à-vis de ce point. En effet, on voit aujourd'hui qu'il va y avoir une augmentation pour les étudiants internationaux hors Union européenne. 2770 euros en licence, 3770 euros en master ou doctorat. Or, nous, cette mesure nous paraît non seulement injuste, mais également dangereuse. Elle est injuste parce qu'elle va concerner un nombre très limité d'étudiants, parce que les règles européennes empêchent qu'elle soit appliquée à un grand nombre d'étudiants extra-communautaires. Donc finalement, ça va s'appliquer pour une minorité qui va entraîner un fort effet d'éviction, et ça c'est prouvé. Au Danemark, lorsqu'ils ont commencé à mettre en place des frais d'inscription différenciés pour les étudiants internationaux, la chute du nombre d'étudiants internationaux au Danemark a été telle qu'elle n'a pu être résorbée que 5 ans plus tard.
C'est le cas de la Suède.
C'est le cas de la Suède.
Moins 70% d'étudiants étrangers, il faut dire qu'ils sont montés très très haut avec des masters qui pouvaient atteindre les 30 000 euros.
Exactement. Donc si on considère que l'augmentation des frais doit être levier d'attractivité, je ne pense pas, parce que ce n'est pas l'argent que ça va générer qui va pouvoir remettre à plat, remettre un certain nombre d'infrastructures, de laboratoires de recherche qui sont extrêmement délabrés aujourd'hui, et ce n'est pas ça qui donnera envie aux étudiants internationaux de venir en France. Le deuxième point, c'est le point de la justice sociale. Est-ce que cette réforme va entraîner davantage de justice sociale parce que les parents des étudiants internationaux ne payent pas d'impôts en France ? Bien non, puisqu'on voit aujourd'hui, et c'est tant mieux, qu'un certain nombre d'étudiants français ont des parents qui ne payent pas d'impôts non plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir, et c'est là que ça devient dangereux, est-ce que ça veut dire qu'on va arriver à un point où les étudiants français vont également avoir des frais différenciés entre eux ?
Alors attendez, on ne va pas tout de suite parler des étudiants français parce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment.
Certes,
on va rester d'abord sans...
Mais
on bien sûr qu'on va en parler.
Logique qui entraîne...
Mais pour l'instant, vous avez soulevé plusieurs points. Thierry Valentin, en termes d'attractivité de la France aujourd'hui et par rapport à ce qui est visé, c'est-à-dire passer de 300 000 étudiants étrangers à 500 000 d'ici 2027. Est-ce que réellement la France a un problème d'attractivité aujourd'hui, sachant qu'on est le quatrième pays le plus attractif derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie? On ne peut pas faire mieux.
Alors, le problème de la France, c'est celui d'une perte progressive d'attractivité relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'étudiants étrangers continue d'augmenter en France, mais bien moins vite que celui de tous les pays qui nous suivent. Bien moins vite que l'Allemagne, certes, mais bien moins vite que la Russie, bien moins vite que la Turquie, bien moins vite que l'Arabie Saoudite, bien moins vite que la Malaisie, bien moins vite que la Hollande. Et donc on a finalement un phénomène de rétrogradage progressif de la France qui est en train de s'opérer.
Malgré 20 000 étudiants supplémentaires pour l'année précédente, là, 2017-2018.
Absolument, on a des pays qui sont à des taux de presque 100% d'augmentation.
Donc en fait, vous nous dites, on augmente, mais en fait, on recule.
En fait, on recule proportionnellement.
En ce qui concerne les conditions d'études, d'accueil, la problématique des universités que vous souleviez en tant que syndicat, Thomas Martin, Di Michele, François Germinet, vous, cette augmentation énorme des frais d'inscription pour les étudiants non européens, qu'est-ce que ça va permettre ? Est-ce que vraiment ça va remettre du cash dans vos universités ?
Alors, ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, ça peut nous permettre de muscler les conditions d'accueil, la manière dont on prépare l'arrivée des étudiants, le logement, les cours de français, des cours d'accompagnement sur la culture, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on offre déjà un peu, mais que l'on devrait pouvoir faire bien mieux. Ça va permettre aussi de financer des groupes supplémentaires dans des filières qui existent pour accueillir un peu plus d'étudiants. Donc une augmentation à la fois de la qualité et puis du nombre, mais marginal, d'étudiants, ça c'est possible. Ce que ça ne peut pas faire, c'est une augmentation massive d'étudiants, parce que le tiers du coût réel, ce n'est pas 100%, c'est juste le tiers. Donc si on veut ouvrir des
nouvelles filières...
Vous auriez
voulu que l'augmentation soit plus importante encore ?
Alors, pour les étudiants qui viennent dans les filières qui existent, non, c'est très bien, parce qu'on peut les intégrer avec ce coût marginal du tiers, qui est déjà un coût important.
Vous auriez voulu que les étudiants étrangers payent le coût réel de ce que paye l'État français pour eux, que l'étudiant étranger paye 10 000 euros, 11 000 euros l'année pour un master ?
Pour un certain nombre pour des filières que l'on ouvrirait, que l'on créerait spécifiquement pour des étudiants internationaux, là, l'État n'a pas les moyens de nous les financer, et donc si on veut ouvrir ce genre de formation, eh bien on sera obligé d'avoir un financement au coût complet.
Donc vous trouvez que le gouvernement n'est pas allé assez loin finalement dans cette augmentation?
Ça permet déjà, ça va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants dans de meilleures conditions. Mmh. Mais on n'est pas dans les conditions du changement d'échelle voulu par le gouvernement.
En même temps, est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver un peu sur cette manne financière qui va arriver dans votre université, pour ne pas la citer, l'université de Cergy-Pontoise, à améliorer les conditions d'accueil, de logement, les conditions pédagogiques, etc. Alors que Thierry Valentin, vous nous disiez avant qu'on démarre cette émission, en fait, le nombre d'étudiants réellement concernés aujourd'hui par cette augmentation, c'est combien à l'échelle de tout le territoire?
C'est actuellement, vu les populations, les flux étudiants en France, 100 000 étudiants.
100 000 étudiants, si on refait un calcul, pour vous, ça va être très peu, en fait, d'argent.
Je vais vous donner un exemple.
À l'échelle d'une université.
Je vais vous donner un exemple. On a aujourd'hui, avec la Chine, une licence qui coûte pour les étudiants en Chine à peu près 4000 euros par an. Et c'est un double diplôme que l'on fait. On va sur place, on donne des cours, etc. Et on a une convention. Et lorsque, donc, ces étudiants qui payent 4000 euros en Chine, lorsque on leur dit, vous pouvez continuer en master chez nous, ils ne payent plus que 250 euros. Donc ça veut dire que finalement, sur les deniers de l'État, sur notre dotation, on finance le cadre chinois qui, deux ans après, retourne chez lui pour travailler.
Pour les Asiatiques, on n'est pas crédible avec des universités à 250 euros l'année?
Non, on n'est pas crédible. Il faut qu'on explique, on commence déjà par expliquer pendant une demi-heure que la formation est sérieuse.
Ça c'est le marketing du luxe. Il faut augmenter le prix pour montrer que c'est beau.
Ben, ça dépend des cultures aussi, voilà. Et ce qui est clair, c'est qu'on a un sujet Afrique qui est extrêmement important pour nous, que ça fait partie de l'influence de la France que d'être présent sur ce continent-là. Et à nouveau, je le répète, le sujet ne sera pas de savoir comment plusieurs millions, voire 100 millions de jeunes peuvent venir en France pour étudier, mais de voir comment on peut aider au développement des universités africaines.
Augusta Lunard. Vous êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes une ancienne diplômée étrangère, non communautaire, en France. Vous venez de quel pays ?
Je viens du Brésil.
Comment vous ressentez ce débat ? Pourquoi vous avez écrit au Premier ministre ? Une lettre ouverte parue dans le journal Le Monde.
J'ai décidé d'écrire cette lettre parce que cette mesure me paraissait hallucinante, injuste, extrêmement injuste, et j'étais profondément triste de la lire et de l'apprendre. Et donc le jour même où je l'ai appris, j'ai commencé à écrire cette lettre et j'ai croisé fort mes doigts pour que ça change quelque chose. Visiblement, ça n'a rien changé. Et je n'arrive pas à croire que dans un pays comme la France, cette mesure puisse être appliquée, parce que je pense qu'elle exclut le principe d'égalité, juste. Et pour moi,
À l'intérieur d'une université, tout le monde ne payera pas le même tarif.
Exactement, donc ce n'est pas égalitaire.
Un peu comme dans l'avion, finalement. Hein.
Exactement. Donc ceux qui ont les moyens, ils peuvent venir. Ceux qui ne peuvent pas venir, bon... Certes, on va augmenter les bourses, mais c'est clair que ça ne sera
pas
suffisant.
Mais vous auriez, si cette mesure avait été en vigueur quand vous êtes arrivé, vous avez quel âge aujourd'hui?
J'ai 27 ans aujourd'hui.
Oui, si vous auriez probablement bénéficié d'une bourse venant du Brésil.
Non, absolument pas.
Pourquoi
non.
Vous n'auriez pas pu bénéficier d'une bourse?
J'ai essayé d'ailleurs à l'époque et je n'ai pas réussi.
Parce que vous n'étiez pas assez bon élève? Parce que quoi?
Non. Mon université n'avait pas du tout d'échange universitaire avec aucune université française, et j'aimais la France depuis que j'avais 10 ans, je rêvais de venir en France, et la solution, ça a été de venir en tant que jeune fille au pair, de travailler beaucoup, 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 et de galérer tous les ans, pardon l'expression, d'avoir beaucoup de mal tous les ans pour renouveler mon titre de séjour. Donc ça n'a pas été... je ne suis pas venue à cause du prix, et parce que la France, c'était le pays qui m'offrait du...
Vous n'auriez pas pu aller dans une université britannique, néanmoins?
Non, absolument pas.
On est d'accord,
non.
Pour des raisons de prix.
Non, mais j'aurais pu aller au Portugal, qui parle portugais comme au Brésil ou en Allemagne, mais j'ai choisi la France et j'ai décidé de venir en France. Ça n'a jamais été facile, et ce n'est pas facile même aujourd'hui.
Thomas Martin Di Michele, qu'est-ce que vous demandez en tant que syndicat étudiant aujourd'hui au gouvernement?
Mais on demande un retrait de cette stratégie vis-à-vis des frais d'inscription. En revanche, on est extrêmement satisfait de voir que la problématique de l'accueil des étudiants internationaux est enfin traitée. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant international, c'est quelqu'un qui paye un visa, qui arrive dans un pays dans lequel il ne parle pas forcément la langue, avec une structuration administrative entre CAF, CROUS, préfecture, Campus France, qui est extrêmement peu lisible, voire pas lisible du tout, et qui n'a pas accès aux aides sociales. Les étudiants internationaux n'ont pas accès aux aides du CROUS, par exemple, aux bourses sur critères sociaux. Et ça les met dans une situation de précarité qui est extrêmement flagrante. Aujourd'hui, on constate dans nos épiceries sociales et solidaires qui sont gérées par la FAGE que plus des deux tiers des étudiants qui en profitent, donc
de l'aide alimentaire, donc, pour parler clairement.
Exactement, dans une situation de très grande précarité, et ben ces étudiants-là sont aux deux tiers composés d'étudiants internationaux. Donc c'est bien que la situation d'augmenter les frais d'inscription, avec une minime augmentation des bourses à côté, elle ne peut pas suffire à traiter la problématique des étudiants internationaux, et au contraire, elle va contribuer à créer une vraie discrimination entre les étudiants internationaux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas.
Alors on va parler des conséquences. Vous nous appelez bien sûr au 33 1 84 22 71 71. Le sujet central, c'est l'augmentation des frais d'inscription dans les universités françaises pour les étudiants non européens.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Adama nous appelle de Dakar chez 7 milliards de voisins. Bonjour Adama.
Bonjour Emmanuel, bonjour l'équipe de 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu Adama, vous êtes étudiant à l'Institut supérieur de management, c'est une école de commerce privée à Dakar. Alors où est-ce que vous en êtes par rapport à cette réforme? Est-ce que vous dites, comme les autres auditeurs précédemment, c'est un coup de tonnerre pour moi?
Oui, c'est un coup de tonnerre parce que...
Ah, on a un petit problème de ligne.
Oui. Allô?
Oui, on vous entend Adama, allez-y.
Voilà. Aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il suffit qu'une chose soit chère pour qu'on puisse en garantir la qualité?
Parce que c'est un sujet de dissertation pour le bac philo, ça. mais plus précisément.
Ouais, c'était moins cher et c'était déjà excellent. Et du coup, on va augmenter le prix et dire que voilà, qu'est-ce que concrètement justifie l'augmentation de ce prix là? On aimerait bien savoir les détails, au fait.
Vous voulez comprendre comment cette augmentation est calculée. Vous comptez donc terminer votre master dans cette école de commerce privée à Dakar. Et ensuite, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous aviez le projet de venir étudier en France?
Bien sûr. Mais moi, je comptais finir déjà mon master déjà et venir faire une université privée, au fait, en France.
Qu'est-ce que vous appelez une université privée en France?
Peut-être Dauphine.
Alors, Dauphine n'est pas une université privée, mais elle a un statut à part de grand établissement. Les frais sont déjà très élevés à Dauphine. D'ailleurs, bonne question, vous posez une bonne question, parce que vous vous dites, finalement, si toutes les autres facs augmentent, ça va être autant aller à Dauphine, ça va être le même prix. Mais en réalité, il va y avoir un effet de domino. C'est-à-dire que Dauphine a complètement dérégulé ses tarifs depuis déjà longtemps. Si les facs sont à 3 770 euros pour l'année de master, les facs normales, Dauphine va mécaniquement augmenter elle aussi ses frais d'inscription pour les étudiants étrangers ou pas? Qui peut répondre, Thierry Valentin, vous savez?
Écoutez, moi je ne suis pas devin et je ne peux pas parler au nom de l'Université Paris-Dauphine. Par contre, je crois que l'intervention d'Adama est très intéressante à deux niveaux. Le premier niveau, c'est comment garantir la qualité et comment savoir ce qu'il va y avoir derrière. Donc je veux simplement expliquer que dans les mesures annoncées, le Premier ministre a demandé à Campus France d'évaluer la qualité dans les établissements français et de délivrer un label de qualité avec un certain nombre d'étoiles, avec certains critères, donc de façon à faire en sorte que l'étudiant étranger pourra, d'ailleurs communautaire ou non communautaire, pourra de toute façon, avant de faire son choix d'études en France, savoir que dans telle université, dans telle école, il sera particulièrement bien accueilli sur tel ou tel critère, etc. Et ça sera complètement lisible. Donc on va faire en sorte d'avoir une vraie grille de qualité. La deuxième raison qui fait que l'intervention d'Adama est très intéressante, c'est qu'il appelle de Dakar. Et que pour rebondir sur ce que disait François Germinet, il ne faut pas oublier cette partie de la mesure, qui est celui d'un investissement massif qui va être fait pour développer les coopérations et les délocalisations de campus et de formations françaises partenariales avec les pays africains, et notamment en Afrique, à Dakar, dans la banlieue de Dakar, à Diam Diao, il y a un projet de...
Voilà. Effectivement, l'université est loin d'être prête à être ouverte.
C'est un processus.
Effectivement, Adama, est-ce qu'on a répondu à vos questions sur le calcul du prix finalement aujourd'hui?
Non, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment on pourra justifier un tel montant que déjà, est-ce que les universités publiques pourront rivaliser avec les universités privées en France? Est-ce que pendant un entretien, une personne, un étudiant qui vient d'une université publique pourra être rivalisé avec un étudiant qui vient d'une université privée déjà? Est-ce pas le prix déjà va grimper et je suppose que il doit avoir plus de revalorisation de cette de se dire qu'on va donner l'argent. En fait.
Alors, en gros, c'est pour 3 770 €. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les universités françaises? Augusta Lunardi, vous pouvez nous rappeler quand vous avez étudié à Paris 8, dans quelles conditions vous avez étudié?
Eh bien, souvent, par exemple, il n'y avait pas de chauffage dans les salles. Le toit de la toiture, on dit, des salles n'étaient pas forcément très neuves, donc on avait souvent des salles inondées. Souvent, on n'avait pas de salles disponibles, donc on était obligé d'avoir des cours dans la cafette ou alors dans des bibliothèques ou à l'extérieur, même quand il faisait beau. Et je vois que cette réalité continue parce que j'ai des amis qui y sont encore. Et je vois que les moyens déployés pour cette université-là, dont la majorité, enfin pas la majorité, pardon, mais 50% des élèves sont étrangers, je vois qu'il y a une grosse différence par rapport à d'autres universités comme Dauphine, par exemple.
François Germinet, est-ce que réellement les étudiants étrangers pour 3 770 € l'année de master, 1 000 € de moins pour l'année de licence, auront des conditions d'accueil décentes dans les universités publiques?
C'est l'enjeu, on l'a rappelé, mais c'est aussi une contribution au coût de la formation. Une formation en licence, c'est entre 7 et 9 000 euros par étudiant, ça a un coût. Et puis des formations en master, on est entre 10 et 12 000 euros à peu près. Donc ce sont des moyens considérables que l'on met à disposition des étudiants qui viennent chez nous. Et donc le fait de pouvoir contribuer, ceux qui peuvent, étant entendu que ceux qui ne peuvent pas doivent pouvoir bénéficier de bourses ou d'exonérations, et on demande aux universités, nous, universités, nous demandons à avoir la main sur une politique d'exonération pour pouvoir recruter tous les jeunes talents qui veulent venir et qui n'en ont pas les moyens. De pouvoir avoir des étudiants qui, eux, ont aussi les moyens, parce que on a aussi des étudiants qui ont les moyens, qui veulent venir en France, et bien qu'ils puissent participer aux frais des études et nous permettre d'accueillir plus d'étudiants qui n'en ont pas.
Alors, vous parlez aussi des autres étudiants, et vous avez raison, il n'y a pas que les étudiants africains, mais qu'est-ce qui permet, je pose la question à Campus France, qu'est-ce qui permet, Thierry Valentin, d'espérer que la France va réussir à attirer plus d'étudiants indiens, russes, chinois, qui n'ont aucune tradition francophone, sachant qu'à l'heure actuelle, 70% des étudiants indiens en France sont dans des grandes écoles? Pourquoi ces jeunes-là vont aller demain dans les universités publiques françaises dans l'État où elles sont?
Très clairement, ce qui a été annoncé par le Premier ministre, c'est un changement de paradigme, un changement de stratégie globale. Et aujourd'hui, nous avons fait des enquêtes auprès de tous les étudiants et du monde, et les espaces Campus France dans ces pays-là nous renvoient aussi cette logique-là. Nous sommes très mal évalués par ces étudiants-là qui ne choisissent pas la France pour des raisons de qualité d'accueil, pour des raisons de complexité administrative et aussi pour des questions d'offres d'enseignement, notamment en langue anglaise, insuffisantes. Donc il y a aussi dans ce plan-là une partie d'incitation aux établissements français pour développer notamment l'offre de cours en anglais et puis pour augmenter l'accueil. On vient de parler de l'accueil dans les établissements, mais c'est un sujet plus global. Il y a des engagements qui vont être pris, qui sont déjà pris sur l'accueil dans les consulats de façon à faciliter et à fluidifier la délivrance des visas, ce qui est un vrai problème aussi en Afrique. Et puis quand même, pour bien préciser le fait que ce n'est pas une mesure qui est contre les étudiants africains, les innovations de la loi vont faire aussi en sorte qu'un nouveau titre de séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise va être accessible pour tous les étudiants du monde, dont africains, même après leur retour dans le pays. On pourra revenir en France pour chercher de l'emploi.
Ça, c'est ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron au moment du discours de Ouagadougou. Mais on voit bien quand même qu'avec cette réforme, l'état d'esprit a bien changé. Vous nous dites que ce texte n'est pas une réforme contre les étudiants africains. Là, au standard, évidemment, il y a énormément d'auditeurs qui veulent s'exprimer. Fifonsi nous appelle du Togo. Bonjour Fifonsi.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 29 ans, vous êtes en master de biologie à l'université de Lomé, c'est bien cela?
Non, je suis en master 2 de biologie agrosciences à l'université de Caen, en Normandie.
D'accord, vous êtes déjà étudiante en France, très bien, on vous écoute.
Donc ma question, en fait, elle concerne plutôt le cycle doctorat, parce que cette année, j'aurai mon master 2, donc je compte poursuivre les études en doctorat. Alors j'aimerais savoir si ces réformes, en fait, concernent les étudiants qui vont entamer le cycle doctorat à la rentrée 2019.
Réponse?
Alors, réponse qui n'est pas encore complètement arrêtée, parce que selon le titre de séjour du doctorant, notamment s'il est considéré comme un scientifique ou comme un étudiant, il y a encore des arbitrages qui sont en cours. Mais a priori, le niveau doctoral est bien inclus dans la mesure et l'établissement, donc dans votre cas l'université de Caen, aura tout à fait à sa disposition un volant de bourse d'exonération pour vous exonérer de bourse de doctorat, de frais d'inscription en doctorat, si vous en faites la demande et si l'établissement décide de vous allouer son exonération.
Et sinon ?
Et sinon, donc, dans un cas, si vous avez un statut de doctorant scientifique, a priori, pour l'instant, sous réserve d'arbitrage, vous n'êtes pas soumis aux frais d'inscription. Si vous êtes considéré comme étudiante, vous serez soumis aux frais d'inscription.
Demain, si vous êtes obligé pour le doctorat de payer 3 770 €, c'est le même prix, ça sera le même prix que le master, hein, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous ferez, Fifosi ?
Bah, déjà là, je suis en train de chercher des bourses d'études dans d'autres pays. Ma piste sérieuse maintenant, c'est le Canada.
Donc l'État français a investi sur vous pendant plusieurs années à fonds perdus, puisque vous partirez en Amérique du Nord, si je comprends bien.
Bah, si j'arrive pas à intégrer le doctorat, donc c'est pas vraiment une joie. C'est pas vraiment une joie, parce que moi je suis venue ici parce que je voulais vraiment faire des études de biologie génétique que je n'avais pas dans mon université à Lomé. Donc c'est pas seulement l'État français qui perd.
Fifonsi, merci de nous avoir appelé. Patrick nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Patrick.
Bonjour.
On vous écoute, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins, Patrick.
Alors, une première chose que je veux dire, c'est que je suis moi-même fils d'ex-étudiants en France et parents également d'un étudiant en France.
Oui.
Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se permettre de continuer à faire que ses élites à étudier à l'étranger. Il faudrait développer chez nous le cadre qu'il faut pour nos étudiants. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas continuer comme ça à envoyer nos enfants étudier à l'étranger. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la mesure que prend la France, pour moi, est une mesure juste, à un hic près, c'est que on ne peut pas donner des frais d'inscription égales, quel que soit le niveau social. Je prends l'exemple de la Belgique, où en fonction des revenus des pays, on a des frais de scolarité qui sont différents. Et là, c'est beaucoup plus juste.
Donc c'est ce que vous attendez du gouvernement français, des bourses sur des critères des critères académiques ?
Non, pas des bourses, mais des niveaux de frais de scolarité différents en fonction des conditions sociales.
D'accord, comme c'est déjà le cas d'ailleurs à l'Université Paris-Dauphine, si je ne me trompe pas, en tout cas pour le master, et comme c'est déjà le cas par exemple à Sciences Po, Paris, où effectivement personne ne paye le même tarif parce que c'est complètement en fonction, enfin il y a plusieurs tranches, hein, mais c'est en fonction des revenus économiques de la famille. Merci beaucoup Patrick de nous avoir appelé. Qui veut réagir au propos de Patrick, François Germinet ?
Déjà sur le doctorat, oui. Sur le témoignage précédent, les universités sont inquiètes du sujet et nous ferons tout pour que cette mesure n'ait pas d'impact sur le doctorat et donc avoir le maximum d'exonération, ou bien aller chercher, lorsqu'on a des financements à l'Europe ou auprès d'entreprises, etc., d'inclure dans les financements que l'on obtient ce montant-là, en tout cas pour qu'il ne soit pas à la charge de l'étudiant.
La FAGE veut réagir, Thomas Martin dit Michelet.
Oui, sur les frais modulaires, donc ce qu'on appelle des frais par tranche selon le niveau de revenu, c'est encore plus injuste selon nous parce que, en fait, ça contribue à séparer en différentes classes sociales les personnes et les étudiants ne reçoivent pas forcément tous les revenus de leurs parents. Or, il faut bien calculer le revenu des frais modulaires à partir de quelque chose. Et c'est souvent le revenu des parents. Donc ça fait des situations où des étudiants qui n'ont pas de lien avec leurs parents vont quand même se retrouver lésés, ou des étudiants de classe moyenne surtout qui doivent payer les premières tranches vont se retrouver lésés parce que c'est pas adaptable à leur situation. Donc là, pour toutes ces raisons, la FAGE restera opposée à toute augmentation des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, et c'est pour ça qu'avec d'autres organisations dans l'UNEF, on appelle à un rassemblement demain à 10h place du Panthéon à Paris.
Dans plusieurs villes de France également. Pour revenir quand même sur quelques questions, alors attendez, non, on a encore des auditeurs qui veulent s'exprimer, on va leur laisser la parole. Julio nous appelle, où est Julio? Oui, à Douala, au Cameroun. Bonjour Julio.
Oui.
Julio, vous avez 21 ans. Bonjour. Et vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins, on vous écoute.
Oui, je disais que pour ma passion, déjà pour l'Afrique, c'est une occasion pour les chefs d'État de bien réfléchir à construire plus d'universités et les écoles de formation pour que ça devienne un Eldorado pour tous ceux qui viendront même étudier et même beaucoup des Africains, beaucoup des Européens pouvaient venir en Afrique étudier. Pour cette augmentation, bien sûr.
Oui, donc pour vous, en fait, ça va pousser les chefs d'État et les politiques en Afrique à redresser la situation, sachant que le problème des universités en Afrique, c'est d'abord un problème démographique, hein, me semble-t-il. Un autre message qui est posté, non, on est en train de me l'écrire sur l'écran de contrôle dans le studio des 7 milliards de voisins. Je voudrais qu'on comprenne bien quelle va être la politique de bourse, puisqu'on nous dit que les bourses vont être multipliées par 3, le nombre de bourses, hein, avec des bourses qui seront ciblées en priorité d'ailleurs pour les étudiants du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Quels vont être les critères pour obtenir ces bourses? Est-ce que ce sera un critère de revenu de la famille? Est-ce que ce sera un critère académique des notes dont on peut justifier dans son pays d'origine ou dans l'université dans laquelle on est déjà installé en France? Quels vont être les critères, Thierry Valentin?
Je laisserai François Germinet répondre plus spécifiquement pour les nouvelles bourses qui seront allouées aux établissements, mais en tout cas pour ce qui est des bourses du gouvernement français, c'est un critère d'excellence qui est le premier critère. Ensuite, les équipes des ambassades qui sont au contact du terrain sont tout à fait en capacité d'analyse selon les provenances des étudiants, leur parcours préalable, etc., pour éventuellement instiller une dose de critères sociaux. En tout cas, pour les établissements français, donc François, après, je te laisserai compléter, mais il ne nous semble pas que les établissements puissent rentrer dans ce qu'on appelle le dossier social de l'étudiant, qui est très compliqué à étudier.
Surtout à distance.
Surtout à distance, et donc ce sera, à mon avis, plutôt des bourses d'excellence.
Et pour vous, donc, François Germinet, pour les bourses sur lesquelles vous aurez la main, parce que les universités à l'heure actuelle mènent une vraie campagne pour avoir un maximum de pouvoir, pour décider elles-mêmes de qui sera boursier.
Les équipes pédagogiques auront la main sur les dossiers académiques pour indiquer s'ils souhaitent que l'étudiant candidat vienne ou pas. Et donc parmi ces dossiers-là, moi je pense que ça sera sur critères sociaux. Il faudra pouvoir exonérer ceux qui n'ont pas les moyens de venir.
Et pas les notes, pas les résultats.
Les notes,
non,
c'est là, c'est le premier niveau.
Vous n'avez pas l'air très sûr
de vous.
Si, c'est
le premier niveau, c'est-à-dire aujourd'hui, on a, par exemple, à l'université de Cergy, on a 15 000 dossiers qui nous arrivent pour des rentrées en licence ou en master. 15 000 chaque année. Chez d'autres universités où c'est 50 000.
Demande de bourse.
Demande pour rentrer via Campus France. Ils demandent à rentrer à s'inscrire dans nos masters. Et on envoie les équipes pédagogiques dans les masters, regarde les dossiers, et le retour, c'est en général moins d'une centaine qui disent, les collègues disent, bah oui, le dossier me paraît correct, l'étudiant pourra suivre dans mon master, et donc je dis oui. Donc c'est déjà moins d'une centaine sur 15 000 étudiants.
Où sont passés les autres, hein.
Ça veut dire que les collègues ont estimé que le dossier n'était pas suffisant pour pouvoir suivre correctement et que l'étudiant serait en difficulté.
Ouais. Donc
sur ce qui reste, les collègues diront, ce dossier-là, je pense qu'il faut lui donner une bourse d'exonération parce qu'il n'a pas les moyens de venir.
Mais finalement,
donc, premier critère académique, deuxième critère social.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y aura suffisamment de bourses pour ceux qui rempliront les critères académiques?
Je pense que c'est le travail qu'on doit mener.
Des étudiants méritants avec de bonnes notes qui ne peuvent pas payer et qui ne pourront pas obtenir la bourse?
Par rapport à la situation actuelle, je pense que non, mais ça se travaille.
Bon. D'accord. La réponse est quand même assez floue, hein.
L'annonce date d'il y a moins de 10 jours. Tout le monde est en discussion avec les ministères et puis Campus France également pour savoir exactement comment ça va se dérouler. Et à nouveau, nous, on souhaite qu'il y ait le plus d'exonération possible, que nous, on ait la main là-dessus et qu'ensuite, il y ait des accords bilatéraux avec les pays pour que différents pays financent également des bourses pour venir.
Je suis désolée, mais 20 000 bourses,
Augustin
ce n'est pas du tout. Je suis désolée, mais 20 000 bourses, ce n'est pas du tout autosuffisant. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants et j'ai été en contact avec beaucoup d'universités ces derniers temps. Et il n'y a pas que 20 000 étudiants dont le besoin, qui ont besoin de bourses. Donc pour moi, ça va clairement faire le ménage. Ça va séparer le bon migrant du mauvais migrant.
Et c'est hors
Thomas Martin dit Michel.
Hors convention, etc.
Il nous reste quelques minutes, Thomas
Martin. Qu'est-ce qu'on recherche aussi dans cette réforme ? Est-ce qu'on se recherche à démocratiser l'enseignement supérieur, à faire en sorte que tout le monde puisse y réussir ? Ou est-ce qu'on recherche à récupérer les meilleurs étudiants internationaux et à rejeter les autres ? Parce qu'on dirait avec cette réforme-là qu'avec 20 000 bourses, soit très peu sur 100 000 étudiants potentiellement concernés, comme vous l'avez rappelé, ça ne va clairement pas suffire. Et donc on va se retrouver avec des étudiants bons et en plus plutôt aisés qui vont pouvoir rentrer, et les étudiants moins bons et potentiellement un peu plus pauvres, qui vont rester dehors. Ça, c'est pas une mesure de justice sociale. C'est une mesure qui vise à sélectionner auprès des
universités. Est-ce que les étudiants français craignent à l'heure actuelle, à terme, une augmentation des frais pour les étudiants français ?
Oui, clairement. On a eu trois jours après l'annonce du Premier ministre, on a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été publié, qui propose l'augmentation des frais des étudiants, des frais de tous les étudiants, à hauteur jusqu'à 900 euros pour un master. Annonce qui a de suite été réfutée par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, certes, mais avec cette augmentation des frais d'inscription des étudiants internationaux, on ouvre un engrenage qui risque de se continuer. Parce qu'en disant qu'on sépare selon l'origine ou selon les revenus ou le paiement des impôts, le paiement ou non de frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, on ouvre la porte à des frais d'inscription différenciés également entre étudiants, quelle que soit leur nationalité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. La FAGE se prononce depuis des années contre toute augmentation des frais dans l'enseignement supérieur et pour un réinvestissement massif de l'État, parce que c'est ça qui manque.
Donc, ce que
finalement,
vous voyez, c'est que l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, c'est la première étape pour ensuite toucher tous les étudiants.
Oui, c'est ça.
Vous demandez un moratoire, vous demandez une concertation, vous organisez une mobilisation dans plusieurs villes de France avec les autres syndicats étudiants. Est-ce que vous n'avez pas choisi la date par hasard des manifestations samedi, vous allez croiser les gilets jaunes sur votre chemin. Comment vous allez faire pour faire copain-copain avec les gilets jaunes ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse de faire copain-copain. On veut bien...
Il y a une opportunité, il y a une fenêtre de tir pour vous, là.
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes sujets.
On est bien d'accord, eux, c'est l'essence.
Non, nous, on veut que le sujet de l'enseignement supérieur, qui est trop peu traité aujourd'hui dans l'actualité, devienne réellement un sujet d'ampleur au sujet du financement des universités. Ça n'a pas forcément de rapport et on veut bien séparer les revendications des gilets jaunes et les revendications des étudiants qui seront là demain dans la rue.
Ouais, mais est-ce que vous allez imaginer surfer sur la contestation des gilets jaunes, qui est un mouvement qui est quand même assez populaire, même si très éloigné de ses préoccupations ? Est-ce que vous allez leur expliquer que derrière, il y a, se propage une probable augmentation des frais d'étudiants pour tous les Français, sachant que parmi ces gilets jaunes, il y a des gens qui ont des enfants dans les universités françaises. Ces gilets jaunes n'ont pas tous des enfants qui n'ont pas fait d'études supérieures.
Oui, bien sûr, c'est certain. En revanche, nous, on veut bien séparer nos revendications des autres pour leur donner une portée unique et ciblée.
Demain, l'attractivité de la France. Alors, qu'est-ce que ça va être finalement, Thierry Valentin ?
L'attractivité de la France, moi, je voudrais revenir rapidement sur quelque chose qui me semble important, c'est de dire qu'il ne faut pas opposer les étudiants qui paieront à ceux qui ne paieront pas, parce que l'augmentation du nombre d'étudiants permettra aussi aux établissements d'augmenter leur nombre d'exonérations. Donc, il y aura un effet de redistribution qui pourra s'opérer, donc d'une part, ne pas opposer les étudiants, puis l'attractivité de la France, notamment vers l'Afrique, je crois que la nouvelle donne est très clairement dite. Il faut qu'on aille vers plus de partenariats, vers plus de circulation, vers des mobilités d'étudiants français aussi en Afrique, se basant sur la présence des établissements français en Afrique et sur le renforcement des capacités des établissements africains. Donc je crois qu'il faut vraiment rentrer dans un mode où nous co-construirons ensemble les élites africaines de demain.
Je laisse le mot de la fin à Augusta Lunardi, ex-diplômée en France.
Je pense que cette mesure a beaucoup de points positifs, notamment la simplification de l'obtention du titre de séjour. Mais je pense que aussi, vous oubliez l'Amérique latine, vous oubliez les pays très pauvres d'Asie, vous oubliez les étudiants pas aisés d'Amérique du Nord, vous oubliez tous les étudiants qui n'ont pas les moyens de venir. Et selon le discours d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, c'est quand même une mesure qui essaye d'attirer des étudiants russes, chinois et de pays émergents. Donc, pour moi, je suis désolée.
Merci, en tout cas, à tous les quatre. Merci, Augusta Lunardi, d'être passée, ancienne étudiante étrangère en France. Merci à vous, Thomas Martin, dit Michel de la FAGE, François Germinet, président de l'université de Cergy-Pontoise. Et merci à vous, Thierry Valentin, de Campus France. On se retrouve lundi en direct, même heure, même endroit.